Vous êtes sur RTL.
L'Angle Écho avec vous, bonjour François Langlais.
Bonjour à tous.
Il a 20 ans ce matin même, c'est bien sûr l'euro qui date du 1er janvier 99.
Oui, si les billets et les pièces n'ont été introduits qu'au 1er janvier 2002, en réalité, la monnaie unique européenne date de tout début 1999. C'est la date à laquelle on a gelé irrévocablement les taux de change. Le franc et les autres devises européennes ont continué à exister pendant 3 ans, mais comme de simples formes de l'euro. La vraie date de naissance de l'euro, c'est donc il y a 20 ans.
Alors 20 ans après, peut-on lui souhaiter bon anniversaire et dire que c'est un succès ?
Bah écoutez, en tout cas, c'est une monnaie crédible et utilisée quotidiennement par 340 millions de citoyens dans 19 pays. Quant à la hausse des prix, sur cette période des 20 dernières années, elle a été plus faible en zone euro qu'aux États-Unis ou qu'au Royaume-Uni, par exemple, qui ont des monnaies différentes. De ce point de vue, c'est un succès incontestable. L'euro a rempli une partie des objectifs qu'on lui avait assignés en protégeant l'épargnant contre l'inflation.
Une partie seulement, vous dites ?
Parce que si l'objectif d'inflation est largement atteint, l'objectif de croissance et d'emploi, il figurait aussi en bonne place, il est plus problématique. En réalité, ça dépend quelle moitié de la zone euro on regarde. Au nord de la zone, en particulier en Allemagne, mission accomplie. Au sud de l'Europe, c'est beaucoup plus douteux. L'euro a été un facteur de croissance pour les économies allemandes, néerlandaises, autrichiennes. Mais il a été, j'allais presque dire, une malédiction pour l'Italie ou pour la Grèce parce qu'il a un taux de change trop élevé pour ces économies-là et qu'il les pénalise.
Et pour la France ?
En France comme ailleurs, l'euro a renforcé les forts et affaibli les faibles. C'est une formule de Louis Gallois, le président de Peugeot Citroën, et elle est tout à fait juste. L'union monétaire a encore accru la mobilité des entreprises et du capital et leur polarisation, comme on dit, c'est-à-dire leur concentration dans les régions et dans les secteurs les plus compétitifs. Du coup, les industries les plus solides, le luxe par exemple, l'aéronautique, ont vu leur part de marché progresser. Et puis à l'inverse, toute l'industrie bas de gamme, l'électroménager, les meubles, même la fabrication de petites voitures, a été balayée. Et c'est la même chose au plan géographique. Les métropoles ont vu leur croissance et leur poids dans l'économie se renforcer, alors que les villes moyennes et les zones rurales ont décroché, justement à cause de la disparition des usines. En France même, il y a donc eu des gagnants de l'euro, mais aussi des perdants.
Et lorsqu'on a lancé l'euro, je me souviens, on imaginait qu'il allait concurrencer le dollar comme monnaie mondiale. Est-ce que ça a marché ?
Pas vraiment, en fait. Dans les réserves de change des grandes banques mondiales, les grandes banques centrales, le dollar représente encore 60% des devises utilisées, alors que ça n'est que 20% pour l'euro, qui est en deuxième place. Et puis surtout, le marché des matières premières, comme le pétrole, reste libellé en dollars, tout comme la plupart des métaux, sans parler des biens industriels comme les avions ou les armes, qui sont aussi toujours évalués en billets verts.
Merci beaucoup, François Langlais.